Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table. Binge Audio présente.
J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte que la justice de notre pays puisse agir de cette façon. Parce que, au fond, qu'est-ce que demandait la famille ? Elle ne demandait pas à condamner l'assassin, elle demandait un procès.
Salut, c'est Inès Guiza. Les décisions de justice ne sont pas toujours accueillies les bras ouverts par l'opinion publique. Récemment, de nombreuses décisions ont poussé des citoyens à descendre dans les rues. Il y a l'affaire Sarah Halimi ou celle des policiers brûlés à Viry-Châtillon. Il y a aussi, en 2019, celle de la cour d'appel de Versailles confirmant la condamnation d'une sexagénaire pour non-respect de son devoir conjugal. Elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Vieux mythe, le devoir conjugal n'existe pas dans les textes de loi. Alors la question qu'on s'est posée, c'est qui sont ces magistrats et magistrates qui prennent ou participent à ces décisions parfois contestées ? Bienvenue dans Programme B. Le parcours des magistrats et magistrates reste flou pour la majorité d'entre nous. C'est d'ailleurs ce qui nous pousse, parfois, à fantasmer sur leur véritable identité. L'affaire du mur des cons en 2013, ces hommes et femmes de droite affichés dans le bureau du syndicat de la magistrature, leur a donné une image de juge gaucho. Et plus récemment, les propos racistes dévoilés par Mediapart au sein de l'École nationale de la magistrature les ont vus se faire taxer de réactionnaires. Pour essayer de comprendre qui sont les magistrats et magistrates, on a invité Laurent Villemez. Il est sociologue et il a travaillé avec son confrère Johan Desmolis sur le profil des magistrats de la dernière décennie. Pour commencer, je lui ai demandé, c'est quoi être magistrat ?
Il y a les magistrats qu'on appelle du parquet, c'est ceux qu'on appelle les procureurs, c'est-à-dire que c'est eux qui requièrent des peines. Et puis, il y a les juges qui jugent. C'est-à-dire qu'ils prononcent les peines. Et donc, en fait, en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, il n'y a pas de séparation véritable entre ces deux fonctions, on va dire, de la justice. L'une qui est donc de requérir au nom de l'État, de dire telle personne, il faut la punir de tant d'années de prison ou de voilà, au nom de la société, on va dire. Et puis, ceux qui jugent, c'est-à-dire qui prennent les décisions. Donc, ces deux groupes-là ne sont pas séparés en France. C'est un seul corps, le corps des magistrats et des magistrates. Alors que dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus séparés et que ces deux professions, en Belgique, par exemple, ce sont deux professions qui sont complètement distinguées. Et ce n'est pas le seul pays.
Je voulais revenir avec vous sur les conclusions de votre étude. Quel est le profil sociologique dominant des magistrats et des magistrates ?
Les magistrats sont à deux tiers femmes. En fait, c'est de plus en plus une profession féminisée, donc féminisée aux deux tiers. Des gens issus en majorité, voilà, de classe supérieure intellectuelle. Donc, enfants d'enseignants du secondaire et du supérieur, enfants aussi de professions juridiques et judiciaires, et donc très peu d'enfants issus, on va dire, des minorités visibles, extrêmement peu. Hein. On a une doctorante qui s'appelle Lucille Belda, qui fait une thèse sur l'École nationale de la magistrature. Je crois qu'elle en avait repéré deux, en fait, sur la promo de 200. Voilà. Alors, il y a peut-être qu'elle n'a pas tout vu, mais vous voyez, on est dans cet ordre-là, vraiment très, très faible, quoi. Mais c'est vrai dans tous les corps de la fonction publique, quoi. Il y a cette question de la reproduction sociale qu'évoquait en son temps Pierre Bourdieu et qui est toujours aussi vraie et qui l'est de plus en plus. Donc il n'y a pas de raison que les magistrats, si vous voulez, échappent à cette question-là, quoi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce sont les plus riches qui deviennent, ou que c'est seulement des enfants de magistrats qui deviennent magistrats, mais ça veut dire qu'effectivement, ce sont les plus dotés scolairement, on va dire, notamment les enfants d'enseignants, pas qu'eux, hein, mais qui ont le plus de potentialité par le capital culturel qu'ils détiennent de devenir magistrat. Alors après, c'est pas si simple. Il y a évidemment des logiques d'ascension sociale au sein de la profession. On en a rencontré des jeunes gens, mais c'est assez rare. C'est encore plus rare des jeunes, comme on dit, issus de la diversité. Mais en l'occurrence, pour ces métiers-là, c'est vraiment pas dans les familles les plus, même s'il y en a, les plus aisées. Il y a quelques familles nobles aussi, quelques enfants de la noblesse qui sont magistrats, mais c'est pas tant la question que ça. Ce qui nous renvoie aussi, en fait, et on n'a pas étudié ça, mais il faudrait à la question des facultés de droit, en fait. C'est-à-dire, à chaque fois, il faudrait en revenir en amont, quoi. Et qui va dans les facultés de droit, pourquoi on y va et quelles sont les manières de faire qui participent à cette reproduction sociale, quoi.
Vous avez remarqué dans votre étude une forte féminisation de la profession de magistrat. Comment vous l'expliquez ?
Alors, c'est une autrice qui s'appelle Anne Boisjol qui a fait beaucoup de travaux passionnants sur cette question. Et ça nous renvoie aux formes d'explication que la sociologie propose de la féminisation des corps, des professions, quand elles sont féminisées. Donc là, il y a plusieurs explications possibles. La première étant que... Enfin, c'est une explication sociologique qui n'est pas la seule, qui n'est pas nécessairement la plus satisfaisante, mais qui est que, au fur et à mesure que la profession perd de son attractivité, les hommes s'en détachent, ne veulent plus y entrer, et du coup, ça laisse la place aux femmes qui sont plus dominées. Et donc, historiquement, ça s'est créé. C'est comme ça que, historiquement, il y a eu de plus en plus de femmes dans la magistrature. Ça, je pense qu'historiquement, c'est vrai. Après, il est vrai aussi que on voit que dans les facultés de droit, quand il s'agit à la fin de l'ancienne maîtrise, c'est-à-dire à la fin du Master 1, de choisir sa voie en quelque sorte entre le métier d'avocat ou de juriste et le métier de magistrat, là il y a une vraie séparation homme-femme. Les garçons vont plutôt vers le barreau et les femmes plutôt vers la magistrature. Ce qui nous renvoie peut-être aussi à des manières de se percevoir dans un métier qui serait peut-être un métier, pas du care, vous savez comme on dit les métiers du care, qui sont les métiers du soin, etc. Mais en réalité, on n'est peut-être pas si loin que ça de ce genre de métier. Je dis ça avec beaucoup de prudence. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, malgré tout, il y a une majorité de filles qui rentrent dans les facs de droit et qui rentrent dans les facs de sciences humaines et de droit, et que les garçons vont plutôt en sciences. Et que donc ensuite, dans les facs de droit, il y a plutôt les filles qui vont vers l'ENM et plutôt les garçons qui vont vers le barreau. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ENM, comme la fonction publique, permet aussi d'avoir des carrières qui sont plus sûres. Et donc, dans une logique éventuellement, même si elles ne pensent pas à ça au début, les filles, hein, bien entendu, quand elles ont 22 ans, mais quand on est dans une logique de division sexuelle du travail domestique, voilà, et entre celui qui va à l'aventure et celle qui s'occupe du foyer et des enfants, la division, elle est vite faite. Mais attention, elle n'est pas volontaire, hein. Elle n'est pas nécessairement pensée en tant que telle, mais elle est structurante et structurelle. Quoi qu'il en soit, il y a des formes d'inégalité. Les hommes, souvent, ont des carrières plus rapides que les femmes dans la magistrature, même s'ils sont, ou parce qu'ils sont très minoritaires, par exemple. Donc ça continue d'exister.
J'imagine qu'il y a un parcours scolaire type pour devenir magistrat ou magistrate. Quelle est la voie royale ? Et puis, quels sont aussi les autres parcours que l'on trouve chez les magistrats et les magistrates ?
La voie royale et la voie principale, c'est les jeunes gens qui font des études de droit jusqu'à un master. Et la dernière année de master est consacrée à la préparation du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Ils peuvent aussi de plus en plus faire une année de prépa, de classe préparatoire privée souvent, ou de classe préparatoire organisée par l'École nationale de la magistrature. Et de plus en plus se développe aussi une préparation au concours à Sciences Po. Ils peuvent aussi avoir fait Sciences Po. Donc, ces jeunes gens ils ont quoi, 23 ans, ils rentrent à l'école, ou 24 ans, ils rentrent à l'École nationale de la magistrature, et là, ils ont une formation de, assez longue, de 2 ans et demi, et puis là, ils ont leur poste. Alors ça, c'est la principale voie. Les deux autres principales, c'est, il y a les fameux, comme il y en a dans toute la fonction publique en France, les fameux concours internes, où là, quand on a été notamment greffier, etc., par exemple, on passe le deuxième concours et le troisième concours qui est pour des gens qui viennent de l'extérieur de la fonction publique pour rentrer à l'École nationale de la magistrature. Donc là, c'est par exemple des anciens avocats. Alors après, il y a encore d'autres possibilités, par exemple le fait d'avoir un doctorat qui permet d'entrer plus facilement, etc.
La justice est rendue par des êtres humains, donc socialement construits, et non par des robots. Je voulais revenir avec vous sur la place de l'interprétation des textes de loi dans un jugement. C'est d'ailleurs ce qui participe à la vision égalitaire du droit français, pouvoir juger au cas par cas. Est-ce que les parcours de vie des juges ont une influence sur la manière de rendre justice ?
Le sociologue va vous dire, bien évidemment, la réponse est oui. Le magistrat, le juge, les autorités, parce qu'il y a plein de magistrats qui sont tout à fait conscients de ça, vont vous dire non. Et un jour, on nous a dit, pendant notre enquête au ministère de la Justice, on nous a dit les Français se désintéressent de savoir ce qu'il y a sous la robe du juge. C'est-à-dire, il y a une personne avec un sexe, avec une origine sociale, avec un type de diplôme et avec aussi une sensibilité. On pourrait dire une idéologie, une morale, je ne sais pas, dites ça comme vous voulez. Et donc, à partir de là, je pense que c'est tout l'enjeu et toute la complexité et tout l'intérêt, en fait, de ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, vous avez tout à fait raison, il y a à la fois le droit. Alors, à la fois, le droit juge le cas d'espèce, mais en même temps, c'est quand même de juger toutes les personnes de la même manière. Donc, ils ont ça, les magistrats, et des fois, ils ne peuvent pas faire autrement. Tout ce dont on entend parler en ce moment autour de la Cour de cassation, qui a validé la déclaration d'irresponsabilité faite par la Cour d'appel du meurtrier de Madame Halimi, eh bien, on n'est pas du tout sûr qu'à la Cour de cassation, tout le monde était d'accord avec ça. Ce que fait la Cour de cassation, c'est de vérifier la validité du jugement par rapport au droit. Donc, il y a ça d'un côté, et évidemment, les magistrats jugent en droit. Et s'ils ne jugeaient pas en droit, il y aurait leurs collègues qui, quand il y a appel, ou ensuite la Cour de cassation, qui invaliderait les décisions. Et ça arrive. Bon, ça, c'est une chose. Après, qui dit droit dit aussi interprétation, comme vous le dites très bien. Et c'est là où les choses sont plus compliquées. Et donc, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui montrent les enjeux et la complexité d'articuler l'ensemble. Alors, par exemple, il y a des travaux autour de la justice des familles ou de la justice des enfants qui montrent que c'est très compliqué en lien aux gens, pas nécessairement de la manière dont on pense. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est pas nécessairement des femmes qui, comme on entend les mouvements masculinistes le dire, qui jugeraient ou qui condamneraient les hommes. Mais évidemment, ça ne peut pas ne pas rentrer en compte. Encore une fois, comme moi, en tant qu'enseignant, je suis aussi, c'est ce que j'explique à mes étudiants, quand je fais un cours de sociologie politique, bah par ailleurs, je suis un citoyen et je vote. Ce qui est plus compliqué avec les magistrats, c'est qu'il y a effectivement malgré tout le droit qui oblige, au sens propre, à certains jugements. Vous voyez, c'est une espèce d'articulation, voire de dialectique qu'il faut constituer. Je pense qu'une partie de ceux qui sont dans des positions sociales, dans des origines sociales plus défavorisées, sont moins bien comme un poisson dans l'eau, on va dire, dans le milieu dans lequel ils sont, et ont donc, c'est ça, c'est une des autres choses que dit Pierre Bourdieu, c'est souvent les gens qui sont les plus éloignés du milieu dans lequel ils sont, ou qui sont un peu à la marge, ou qui sont un peu pas sûrs, etc., qui sont les plus réflexifs, les plus questionneurs sur le groupe, quoi. Quand on est complètement dans le groupe, en fait, quand on est bien au milieu, quand on est enfant de magistrat, tout ça, souvent, la question, elle se pose même pas, parce que de toute façon, c'est naturel, en quelque sorte, comme un poisson dans l'eau, comme on dit.
La représentation qu'on a des magistrats et magistrates m'interpelle un petit peu. Il y a eu l'affaire du mur des cons, plus récemment, des propos racistes au sein d'une promotion de l'École nationale de la magistrature. Et il y a ce paradoxe de « les juges sont de gauche où les juges sont réactionnaires. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fantasme sur l'identité ou les convictions des magistrats et magistrates ? Et comment on peut expliquer ce fantasme s'il y en a un ?
Il y a eu ce fameux mur des cons, il y a eu ce que vous dites, mais il y a eu aussi très récemment, par exemple, les manifestations de policiers devant le tribunal après la relaxe d'une partie des gens qui étaient soupçonnés d'avoir brûlé des policiers, etc. Il y a les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a soit la vision de magistrats qui seraient laxistes. Mais ça, ça existe depuis les années 70, hein, c'est-à-dire les discours sur le laxisme, le discours sur les juges rouges, comme on disait aussi dans les années 70, quelque chose qui est extrêmement développé. Alors, on ne dit plus les juges rouges parce que ça n'existe plus, mais plutôt le laxisme, on l'entend beaucoup dans le monde politique. Et à l'inverse, effectivement, il y a toute une partie qui pense que, peut-être surtout de la gauche radicale, qui pense effectivement que la justice est une justice aux ordres, en quelque sorte aux ordres du pouvoir. Donc je pense qu'évidemment, elle n'est rien de tout cela. Ce serait, je pense, assez difficile de proposer une opinion globale des magistrats qui, à mon avis, n'existe pas. Peut-être sont-ils plus majoritairement à gauche que le reste de la société, mais comme une partie des fonctionnaires qui, statistiquement, votent plus à gauche, on va dire, que les personnes du privé, qui est une grande séparation classique. Après, je crois que, en fait, c'est beaucoup, beaucoup lié aussi à une méconnaissance extrêmement forte, mais ça qui est très problématique aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème là-dessus, de la justice et de comment fonctionne la justice. C'est sûr que depuis 15 jours, on entend des choses complètement hallucinantes sur les magistrats, sur la justice, et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, en fait. Et je trouve que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une séparation extrêmement forte et qui est extrêmement inquiétante en démocratie entre l'institution judiciaire et les justiciables. Mais c'est la faute un peu de tout le monde, hein, y compris du monde de la justice qui n'est sans doute pas assez pédagogue, qui n'explique sans doute pas assez ce que ça veut dire que de rendre la justice et à quel point la fonction de justice, elle est centrale dans la société.
L'étude de Laurent Villemez et Johan Demoly rejoint d'ailleurs celle de Frédéric Thiriez. L'avocat a été missionné par Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, pour réaliser un rapport sur la haute fonction publique. Résultat, la haute fonction publique manque de diversité sociale. Croisons les doigts pour que la refonte de l'ENA, annoncée par Emmanuel Macron, permette plus d'inclusion. Merci à Laurent Villemez pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode. Instagram, Facebook et Twitter. À demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.